Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, j'ai bien failli ne pas pouvoir vous faire ce sermon. Je suis tombé ce matin à bicyclette sur une plaque de verglas alors que je me rendais à la gare pour mon ministère du dimanche. Mais rassurez-vous, je ne me suis pas mordu la langue et donc nous pouvons en venir à ce très beau texte de l'Apocalypse sur l'Église triomphante. J'avais hâte de vous en parler, surtout en cette période qui est encore celle de Noël. Nous avons beaucoup parlé des combats que l'Église doit mener. Remarquez, la liturgie, elle aussi, dès le lendemain de Noël, nous parle des martyrs, des saints enfants innocents, martyrisés. Le martyr de Saint-Étienne, l'Église triomphante qui a triomphé justement dans les épreuves, qui a une récompense d'autant plus belle qu'elle a su résister aux tentations du cheval rouge, du cheval noir et du cheval blême. Voici le texte sacré. Après cela, je vis quatre anges qui se tenaient debout sur les quatre coins de la terre, maintenant les quatre vents de la terre, afin qu'ils ne soufflent point sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Cela, c'est la transition d'avec ce qui précède. Le vent, c'est l'évangile, c'est la prédication de l'Église. Et les démons, car les quatre anges, ce sont quatre démons. Les démons sont des anges, hein, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Des anges déchus, mais des anges quand même. Donc les quatre démons essayent d'empêcher le vent de souffler sur la terre, la mer et sur aucun arbre. La terre, ce sont les petits chrétiens qui ne sont pas encore dans un état avancé de vie chrétienne, qui sont plutôt dans un état de labour, mais qui finiront par porter du fruit. La mer, ce sont les pécheurs qui sont agités comme la mer. Et puis les arbres, ce sont les chrétiens avancés qui portent du fruit comme un arbre et qui montent vers les hauteurs et vers le soleil. Mais les oppositions du démon aux quatre vents, les quatre coins cardinaux, c'est-à-dire la totalité, voyez, et puis nord, sud, est, ouest, ce qui permet de se repérer. Donc voici que le démon va bientôt trouver son maître. Enfin, il l'a toujours trouvé, mais le maître va se manifester. Voici un autre ange qui montait de l'Orient. Cet ange, évidemment, c'est le Christ, qui vient de l'Orient, c'est-à-dire de la lumière éternelle, c'est-à-dire du sein de son Père. Et il porte le signe du Dieu vivant. Ce signe, c'est tout d'abord le rayonnement de sa divinité dans son humanité. On le reconnaît, il est facile à reconnaître, parce qu'il est Dieu et cela se voit. Son signe, c'est également le signe de la croix, qui est la source du salut, la source de toute vie. Cette croix est glorieuse, non pas seulement à cause de ses conséquences, à savoir la résurrection des pécheurs, mais en elle-même. Elle est la marque de la bonté du Fils de Dieu, de son humilité, de la rédemption, de sa miséricorde. Les rois se sont fait une gloire de porter la croix sur leur couronne. Et si le chrétien qui reçoit la confirmation reçoit le signe de la croix sur le front, c'est pour être fier de porter cette croix. En outre, cette croix est puissante, puisque sur le front des confirmés, elle leur donne le pouvoir vaincre les hérésies, défendre la foi. Le Christ, alors, d'une grande voix, s'adresse aux quatre démons, et il leur dit: Ne nuisez pas à la terre, à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous marquions les serviteurs de notre Dieu sur leur front. Non pas que, après ça, ils feront ce qu'ils voudront. Loin de là, après cela, le démon sera renvoyé en enfer et chassé de la terre. Ce qui est important, c'est que le Christ va marquer ses serviteurs, les serviteurs de Dieu, sur leur front. Car le signe de notre Seigneur doit être porté par tous ses disciples, doit être porté avec fierté. Et j'entendis le nombre de ceux qui furent marqués, 144 000 marqués de toute tribu des fils d'Israël, 12 000 par tribu. Voyons tout d'abord la signification de ces 12 000, il n'y a pas à chercher très très loin. Aujourd'hui nous dirions des millions ou des milliards, 1000, c'est énorme. Quand j'étais petit, j'avais appris à compter jusqu'à 1000, il me semblait qu'on ne pouvait pas aller plus loin, et je disais à ma grand-mère, « Mémé, je t'aime jusqu'à 1000 ». 12, 3 fois 4, c'est un chiffre parfait. Beaucoup plus parfait que 10, parce que 10 est difficilement divisible. Il y a aussi évidemment une symbolique, les pères de l'Église s'étendent longuement sur cette symbolique. Disons seulement ce qu'il est facile de retenir, 4 les vertus cardinales et surtout 3 les vertus théologales. Vertus théologales, foi, espérance, charité, et les 4 vertus cardinales, prudence, justice, force et tempérance, autour desquelles tournent toutes les autres vertus. Ce qui est certain, c'est que pour être marqué, il faut avoir pratiqué la vertu. Et on a de nombreux élus, tout d'abord dans les tribus d'Israël. Les 12 noms des tribus ont tous une signification dans l'hébreu. Je ne vous la donne pas parce que vous risquez de ne pas la retenir. Si vous voulez avoir le détail, lisez Don de Montléon, son commentaire de l'Apocalypse. Cette variété des 12 tribus d'Israël correspond à la promesse de notre Seigneur. Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Les fils d'Israël sont ici nommés en premier, non pas seulement pour des raisons théologiques, mais parce que, disent les pères de l'Église, ils sont plus spirituels. Ce n'est pas très fréquent qu'on attribue ce caractère plus spirituel aux fils d'Israël par rapport à ceux de l'Église ensuite. Mais il s'agit de quelque chose de mystique, et là on compare les fils d'Israël aux gentils, aux nations. Ceux qui ont eu à se convertir, alors que les fils d'Israël, eux, étaient les chrétiens de l'époque. Pour ce qui est de ceux qui viennent des gentils, il y a une foule immense que personne ne pouvait dénombrer, personne sur la terre bien entendu, parce que Dieu connaît chacun d'entre nous un par un. Là, on n'est plus à 12 000 ni à 12 fois 12 000, ce qui fait 144 000. Il y en a tellement qu'on ne peut pas les dénombrer. Dieu avait promis à Abraham une descendance aussi nombreuse que les grains de sable de la mer. Et ils viennent de toutes les races, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues. Non pas qu'il n'existe pas de race, ni de tribu, ni de peuple, ni de langue. Mais Dieu, en les marquant du signe, de son signe, le signe de la croix est son signe à lui, les met toutes au service de Dieu, chacune avec ses qualités et ses défauts. Et elles se tiennent debout devant le trône en présence de l'agneau, l'agneau immolé bien entendu dont nous avons déjà parlé, vêtu de robes blanches, c'est la blancheur de la grâce et de la gloire, avec des palmes dans leurs mains, c'est les palmes de la victoire. Il ne s'agit pas ici des palmes du martyr, c'est un symbole qui viendra un peu plus tard dans l'Église, surtout parce que le martyr est le signe de la victoire. Et au début, il n'y avait que les martyrs qui étaient canonisés. Ici, dans l'Apocalypse, c'est toutes les victoires de tous les saints. Et ils reconnaissent que s'ils sont sauvés, c'est grâce à Dieu. Et il le proclame. Le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau, c'est de lui que vient le salut donc. Et tous les anges se tenaient debout autour du trône, et ils adorèrent Dieu. Imaginez mes bien chers frères, toutes ces places vides qui avait été laissé au milieu de la cour céleste par les anges déçus, et voici que les anges fidèles retrouvent comme compagnons non pas des grands anges, mais de pauvres mortels qui, cependant, grâce à Dieu, vont être parfaitement à leur place au milieu des anges, frères de Jésus-Christ, fils de Dieu, fils de Marie. Ce sera au ciel une de nos grandes joies de constater que nous devons le salut à notre Dieu si bon et si généreux. Mais on se pose encore bien des questions, Saint Jean se pose encore bien des questions, et un des vieillards va prendre la parole pour lui répondre. Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Saint Jean répond à ce vieillard, Monseigneur, vous le savez. Remarquez le respect avec lequel il parle à ce représentant de Dieu. Il faut avoir, mes bien chers frères, ce même respect pour les prêtres et à beaucoup, beaucoup plus forte raison pour les docteurs de l'Église, pour les pères de l'Église, pour les saints qui répondent à nos questions. Ce vieillard répond donc, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation. C'est pour cela que j'avais hâte de vous faire ce sermon. Je vous ai dit que la tribulation permettrait de faire des saints et des grands saints, et de nombreux grands saints. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas nous décourager ni nous inquiéter dans les difficultés actuelles de l'Église, dans les tentations, dans le marasme dans lequel nous sommes. Nous sommes dans la grande tribulation et nous en sommes sortis parce que nous avons lavé nos robes et nous les avons blanchies dans le sang de l'agneau. Lavé par le baptême, par la pénitence, pas seulement le sacrement de pénitence, la vertu de pénitence. Le sacrement nous fait entrer dans la vertu de pénitence et dans la pratique de la vertu de pénitence. C'est pour ça qu'il porte ce nom. Donc nos robes, c'est-à-dire nos âmes, ont été lavées, mais de plus, elles ont été blanchies dans le sang de l'agneau. Or, ne cherchez pas, évidemment, à prendre au pied de la lettre, puisque le sang est rouge, il ne peut pas blanchir quelque chose. Mais nous sommes dans le domaine mystique, je vous l'ai déjà dit. Ces apparentes contradictions ont pour but de nous faire réfléchir et de nous faire découvrir le sens spirituel profond et élevé de ces paroles. Le sang de l'agneau fait plus que de laver nos âmes, il les rend semblables à Jésus-Christ, blanches et lumineuses comme Jésus-Christ. Nous savons ce qu'il nous reste à faire, mes bien chers frères. Pour que nous ressemblions à Jésus-Christ dans la gloire et dans la grâce, il faut d'abord que nous lui ressemblions dans la pratique des vertus et dans la fidélité au Saint-Esprit. Fidélité qui doit normalement être mise en valeur par les épreuves. C'est le seul moyen d'être devant le trône de Dieu, le vieillard continue, et de le servir jour et nuit dans son temple. Quelle récompense pour nous d'être devant le trône de Dieu et de le servir jour et nuit dans le temple. Et la grande récompense, celui qui est assis sur le trône, Dieu, étendra sa tente au-dessus d'eux. Sa tente, c'est-à-dire, leur donnera un toit, il les fera entrer dans sa maison. Mais pourquoi la tente? Parce qu'il ne s'agit pas d'une maison matérielle, de pierre et de bois, mais d'une grande tente spirituelle, le ciel. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus jamais attaqués par les tentations. Ils seront dans une communion éternelle. Ils n'auront pas besoin de renouveler la communion sacramentelle ou spirituelle fréquemment pour demeurer dans l'union à Dieu. Une fois au ciel, c'est une communion permanente. Et ils n'auront plus soif puisque le Christ a promis que celui qui boirait l'eau de son sacré cœur n'aurait plus jamais soif et que des fleuves de vie couleraient de son côté. Ils ne seront plus soumis à la brûlure du soleil, ni à aucune intempérie, parce que l'agneau qui est au milieu du trône les gouvernera, les conduira aux sources des eaux vives, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Voilà, mes bien chers frères, ce que nous devons méditer, ce dont nous devons emplir notre mémoire. Et rappelez-vous que par la foi, nous sommes déjà les frères des habitants du ciel, que dès que nous sommes marqués du signe du Christ, nous commençons déjà à être protégés, même si nous sommes encore dans la tribulation, que dès que nous avons reçu le baptême ou fait pénitence, puisque hélas, il faut souvent renouveler la pénitence, nos robes sont lavées, même si elles ne sont pas encore blanches, et qu'il est normal que, avant la fin de notre vie, nos robes soient non seulement lavées et pures, mais blanches, rayonnantes, rayonnantes de foi, de charité, rayonnantes de toutes les vertus, à l'image de celle de notre Seigneur Jésus-Christ, et de celle, évidemment, de la Très Sainte Vierge. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.